Alors moi, j'ai classé ça en trois points. Je savais que Julie Royon ferait un super boulot, qu'elle fait déjà sur Saint-Étienne et Lyon. Et elle, au téléphone, elle m'avait dit « ça serait bien que tu parles un peu de la matière internationale, comment on peut protéger ces mineurs ?» C'était le cadeau, mais je la remercie du cadeau, parce qu'elle, elle a fait super bien le droit interne français. Et donc j'avais envie un petit peu, parce que j'aime bien les colloques, mais j'aime bien qu'on se parle aussi. Je trouve que j'avais envie d'évoquer trois points avec vous, et de vous pousser un peu dans vos retranchements à tous. Premier point, j'avais intitulé « Jusqu'où va-t-on aller dans le non-respect des personnes vulnérables ?» C'est gentil, mon titre. C'est très gentil, même. Alors, imaginez, c'est facile, un jeune Afghan, né en octobre 2000 en Afghanistan. Il arrive en France le 17 décembre 2016. Il est pris en charge par les services de la métropole de Lyon, vous savez, la création de M. Collomb et de M. Macron. Et cette métropole, pour la prise en charge de l'enfance d'un jeune de 16 ans, le place dans un hôtel, pour ceux qui connaissent Lyon, qui s'appelle Hôtel Lacassagne, dans le 3e arrondissement, 5 mois, seul, sans cours de français, sans accompagnement. Et puis il a un entretien. C'était drôle de se rejoindre là-dessus aussi, mais ce n'est pas étonnant. Il a un entretien avec, soi-disant, un travailleur social compétent, spécialisé, tel que requis par la loi, n'est-ce pas ? Qui va faire cet entretien. Alors, il est arrivé le 17 décembre, il va faire cet entretien le 20 décembre. On va être gentil, on ne citera pas les noms, parce que je suis toujours contre la délation. Je n'ose pas penser qu'elle soit dans la salle. Cette jeune femme va faire un entretien. Alors à Lyon, la spécificité, c'est une heure maximum. Et au bout de 50 minutes, si vous êtes un peu long dans les entretiens, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, c'est votre chef, et qui vous dit « t'as vu l'heure ?» Alors, ça donne ça dans le compte-rendu de cette personne qui s'appelle assistante socio-éducative, le 20 décembre 2018, après un entretien d'une heure. Je ne dirais que le prénom, bien sûr. Fazel explique avoir fui le contexte de guerre de son pays afin de pouvoir poursuivre des études dans un environnement serein. C'est sa mère et son oncle qui ont financé le voyage en faisant appel au service d'un passeur. Nous avons des doutes concernant la minorité de Fazel et nous sollicitons une enquête de police afin de vérifier son identité. Ça s'appelle un rapport socio-éducatif. La chef de l'assistante socio-éducative, qui elle a aussi un titre sympathique, écrit au procureur de la République immédiatement. Et ce chef demande des poursuites pénales, parce que ça passe de « nous avons des doutes » à « nous vous demandons des poursuites ». Ça fait 3 jours qu'il est sur le territoire français, le gamin. Très bien. Les mois passent, il est toujours à l'hôtel, super bien accompagné par les dispositions de la loi que vous connaissez tous, et qui ne devrait pas faire de discrimination entre un étranger mineur et un mineur français, mais on y est. Les services de police font soi-disant une enquête en envoyant un mail au service consulaire français en Afghanistan, qui leur demande de vérifier si ce taskera, cet acte de naissance afghan, existe ou pas. Et dans le dossier reviendra quelques mois plus tard une lettre qui vaut aussi son posant d'or, on ne va pas attaquer que les services socio-éducatifs, de quelqu'un qui a fait l'ENA et qui est au Quai d'Orsay, et qui dit, alors je n'ai pas pris parce que c'est tout là-dedans, si vous voulez vérifier, il n'y a pas de souci, et qui dit, ah non, non, cet acte de naissance, il est faux. Nous n'avons pas pu aller dans la province, mais les services de sécurité afghans nous indiquent qu'il est faux. Alors j'ai oublié de vous dire autre chose. C'est que le 2 mai 2018, ce jeune homme demande l'asile. Il est toujours là, entre la rue, l'hôtel, enfin bref, un vrai bordel. Et il demande l'asile. La préfecture dit « j'enregistre votre demande d'asile, j'y suis bien obligée ». Mais vous êtes poursuivi pour le tribunal correctionnel pour faux. Usage de faux d'un document administratif en vue d'obtenir un avantage auprès de la métropole. Et ça donne effectivement une facture de la métropole sur les frais d'hôtel. Et puis, cette poursuite pénale était diligentée dès le 2 mai 2018, dès le fait qu'il ait demandé l'asile. On a été convoqué au tribunal correctionnel pour le mois de juin. On a fait renvoyer ça parce que la juge, au vu des documents et de la suite des événements, a dit « Je ne veux pas à Lyon, je ne veux pas juger ça toute seule. La cour d'appel nous contrôle beaucoup. Et je vais renvoyer en collégial, c'est-à-dire j'appelle deux autres collègues avec moi. Et maître, vous pouvez faire citer qui vous voulez comme témoin. » Ça, c'est pour répondre à une remarque de tout à l'heure. Répondre, ou suggérer, pardon, plus modestement. L'affaire reviendra le 19 novembre 2018 à Lyon à partir de 14h. Ils sont capables de maintenir des poursuites pénales, tenez-vous bien, hein, contre un jeune homme qui a demandé l'asile le 2 mai 2018, qui a obtenu l'asile à l'OFPRA, c'est-à-dire dès le premier entretien. Et l'OFPRA, comme vous le savez tous, vous êtes des super personnes en droit et ailleurs, eh bien c'est l'OFPRA qui fait l'état civil pour les réfugiés et qui dit que cette tasquera, elle est bonne. Nous sommes poursuivis, je dis toujours nous hein, dans ces cas-là, nous sommes poursuivis pour faux documents ayant entraîné des avantages au préjudice de la métropole de Lyon qui ne craint pas de demander des dommages et intérêts à l'encontre de ce jeune homme. Alors c'était ma première question et mon premier point. Jusqu'où va-t-on aller dans le non-respect des personnes vulnérables ? Et qu'on soit clair, ce n'est pas ici le procès des services sociaux, de la chef des services sociaux, de la métropole, parce qu'on peut y aller partout. On peut mettre les juges, les avocats qui ne font pas leur boulot, qui ne répondent pas, qui ne travaillent pas à l'AJ, à l'aide judiciaire, enfin bon, on peut mettre tout le monde. On peut mettre aussi le chef de l'hôpital de Lyon, qui est, comment on appelle ça, directeur de l'Institut de médecine légale, qui lui accepte volontairement les expertises osseuses et ne se pose aucune question. Il faudra aussi un jour qu'on fasse peut-être une action. Point 2, c'est la protection des mineurs par les textes internationaux. Quels peuvent être les outils ? Parce que faut pas sortir d'un colloque, enfin il me semble, pardon, qu'il faut pas sortir d'un colloque avec le moral en berne. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut toujours se dire qu'on va se battre et qu'on va gagner. Regardez, à Saint-Étienne, ils y sont arrivés. Bon, d'accord, il y a une équipe de bénévoles formidable et il y a une avocate super. Donc, ça peut marcher. Dans ces cas-là, ça peut marcher. Plus des assos. Et plus des juges qui changent d'avis, ce qui est bien, dans le bon sens. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Alors, les outils, ben, je vous en donne un. Mais je sais que ça va agacer, mais ça fait rien. C'est le suivant. Je vais essayer d'être rapide aussi. Hein. Une jeune Camerounaise qui dit être née en 2002, qui réside à Angers. Pour échapper à un mariage forcé, elle quitte son pays. Ça ne surprendra personne quand on connaît le pays en question. Elle entre en France en août 2018, se présente à l'aide sociale à l'enfance du Maine-et-Loire. Elle est hébergée dans un hôtel pendant un mois. Ça, faudra toujours m'expliquer pourquoi on met des jeunes à l'hôtel. Enfin bref, passons. Après entretien avec un éducateur le 25 septembre 2018, elle est considérée comme majeure. Le 26 septembre 2018, le procureur lui dit qu'il n'y a pas lieu à placement provisoire dehors, mise à la rue. Elle dort dans un squat pendant des mois. Est-ce que on vous fait un dessin sur la situation des filles, mineures ou pas mineures, dans des squats ? On pourra faire un jour une journée spéciale femmes, parce que dans les squats, c'est chaud, hein, pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes. Donc, toutes ces demandes d'hébergement d'urgence au 115 sont rejetées, et elle obtient quand même du Cameroun un document démontrant sa minorité. Le 25 octobre 2018, le refus du département de réexaminer la situation malgré le document d'identité valablement délivré. Par contre, il y a une saisine du juge des enfants. Il y a aussi des avocats qui se battent à Angers. Il y a une saisine du juge des enfants d'Angers et le juge va considérer qu'il y a lieu à placement, enfin. Très bien. Par contre, parallèlement, le Maine-et-Loire fait appel de la décision du juge pour enfants et dit qu'il n'y a pas lieu à placement. Bref, tout ça, ça dure des mois, c'est pas vieux, ça continue. Et pour tout vous dire en plus, le tribunal administratif de Nantes avait ordonné en supplément, parce que les avocats étaient allés tous azimuts, l'hébergement de cette jeune femme. Le 24 janvier 2019, le TA ordonne l'hébergement à l'État. Le 13 mars 2019, le Conseil d'État, juridiction magnifique, annule cette ordonnance ensuite de l'appel du département, en considérant qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C'est toujours très relatif, la notion de liberté fondamentale, pour les vieux magistrats du Conseil d'État. S'agissant d'une demande de mise à l'abri de l'attente d'une décision du juge des enfants, il n'y a pas d'atteinte, dehors. Moralité, la jeune fille s'est retrouvée dehors, dedans, avec quelques mois de squat. Ses avocats décident d'aller plus loin, et franchement, on leur en fait des petits mails pour leur dire chapeau les gars, bravo. Le 15 mars 2019, la jeune fille, avec ses avocats, saisit la Cour européenne des droits de l'homme sur la base de l'article 39. Je sais que ça fait peur, le droit, mais il ne faut surtout pas en avoir peur, il faut l'utiliser. Hein. L'article 39 du règlement de la Cour pour dire que l'État français doit être condamné immédiatement à titre de mesure provisoire pour assurer un hébergement, vu la reconnaissance de minorité. La Cour européenne accepte la demande le même jour et enjoint l'État d'assurer cet hébergement, ce qui est fait dans les 48 heures de l'ordonnance de la Cour européenne. Et ensuite, la Cour va décider de poser un certain nombre de questions au gouvernement français en disant, je cite les questions, c'est en cours. Y a-t-il violation de l'article 8? Alors n'ayez pas peur des articles. Y a-t-il violation du droit à la vie privée et familiale pour une jeune fille mise à la rue, mineure, entre septembre 2018 et fin janvier 2019? Monsieur le gouvernement, merci de répondre. L'affaire est en cours, l'anonymat est garanti de cette jeune femme. Ça, c'est pour vous donner du courage et vous dire qu'on peut faire des choses en rapidité, en exécution, assez rapide, 48 heures, c'est pas mal, et contrer ainsi, parfois, la position des juges, même du Conseil d'État, qui parfois est remarquable, d'autres fois un peu moins remarquable sur la notion de protection et d'hébergement pour des personnes vulnérables. Troisième point pour ma part, pardon, je reprendrai après, Troisième point après, j'avais envie de vous parler d'un texte parce que j'avais trop envie qu'au moins 140 personnes ce soir se disent « Putain, j'ai appris quelque chose ce soir ». Et surtout, non seulement disent « J'ai appris », et peut-être qu'ils connaissent les gars du Comed et les femmes, mais peut-être que ça va vous donner des idées pour qu'on travaille tous ensemble. Je veux dire par là, juristes, médecins, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, je continue, la liste n'est pas limitée. C'est le texte suivant, c'est le protocole d'Istanbul d'août 99. Protocole d'Istanbul, alors n'ayez pas peur, protocole d'Istanbul, c'est un texte, vous tapez sur Internet, protocole d'Istanbul, attention, vous ne trompez pas, il y a trois conventions d'Istanbul. Le protocole d'Istanbul, il date d'août 99. Il aura 20 ans cet été. On fêtera les 20 ans du protocole d'Istanbul en France ou à Genève dans fin d'année. Vous en entendrez parler. En tout cas, gardez l'adresse du site Passerelle Buissonnière, qui est une association sur Lyon avec laquelle on travaille et qui a sorti ce texte avec quelques avocats. On n'était pas nombreux. Ce protocole, en fait, c'est vraiment un truc... Bon, il ne faut peut-être pas lire ça ce soir, mais dans quelques jours. C'est en fait un texte... Alors d'abord, c'est un texte très intéressant parce que c'est un texte qui a été fait et établi par 130 experts, psychiatres, médecins, psychologues, psychologues aussi, médecins légistes, etc., du monde entier, réunis sous l'égide des Nations Unies, pour savoir comment interroger les personnes victimes de viols ou de graves violences. Et ce texte, franchement, il est lisible. Bon, la partie médicale, par les toubibs, mais tout le reste avant, c'est vraiment très lisible, et ça nous pose plein de questions. C'est comment interroger? Comment être? Dans quel lieu? Dans quelles conditions? Comment faire attention pour ne pas réactiver le traumatisme? Et là, je vous en passe des questions, etc. Mais ce que je voudrais juste vous dire, parce que là, je suis incapable de tout synthétiser, mais vous donner juste un tout petit exemple de ce qu'on a fait à partir de ce protocole. Et pour être très honnête, ce protocole d'Istanbul, qui date de 99, dont les Nations Unies n'ont pas fait nécessairement une grande publicité, malgré son adoption en Assemblée générale, l'Europe, et quoi qu'on dise l'Europe, l'Europe l'a intégré dans sa directive procédure de juin 2013, qui est une directive qui concerne la demande d'asile et les demandes de reconnaissance de protection internationale. Donc ça veut dire que cette directive européenne est invocable en France comme dans tous les pays de l'Union européenne 2 ans après. Là, pour le coup, c'est à partir de juin 2015. Bon, on a juste 4 ans de retard. C'est pas grave, ça fait nous 3 ans qu'on travaille dessus avec quelques-uns et des médecins qui sont dans la salle. Ça veut dire, en gros, on ne pourra pas peut-être évoquer dès le premier entretien un certain nombre de choses graves. Mais nous, on le traduit, ça veut dire aussi que l'entretien mineur OFPRA, tout à l'heure je bondissais, pardon, c'est que non, les mineurs qui ne demandent pas l'asile, ils sont protégés normalement du fait de leur minorité. C'est trop tôt pour eux pour parler d'un certain nombre de choses. Gagnons du temps pour qu'ils puissent parler, et vous le savez encore mieux que nous, les psychiatres, les médecins, les psychologues, etc. Il nous faut du temps. Il nous faut à tous du temps, mais il faut du temps à celui qui demande l'asile, notamment. Et donc, je vous donne l'exemple, parce que le texte est vraiment... Il y a plus de choses à raconter que ça. Il y a vraiment énormément de choses qui nous rappellent à tous notre éthique. Celui du magistrat, et il faudrait le renvoyer au juge parce qu'ils oublient un peu, il y a des textes des Nations Unies sur l'éthique des magistrats. Il y a des textes des Nations Unies sur l'éthique des avocats, sur les médecins, sur les interprètes. Donc, il y a toute une partie comme ça de rappel, de recommandations. Puis après, il y a un certain nombre d'évocations sur les conditions de l'entretien. Et je vous promets qu'on change tous. Quand on a lu ce texte et qu'on travaille avec les médecins qui ont rédigé ce texte, nous on travaille, on a la chance de rencontrer les deux coordinateurs sur trois, Önder Kalipci, qui est un médecin légiste turc qui vit en Suisse, et la psychologue Caroline Schlar, qui vit en Suisse, qui ont été tous deux coordinateurs, qui sont exceptionnels, qui sont venus nous faire travailler il y a 4 semaines à Lyon, 2 jours d'affilée. C'était hyper crevant, mais c'était hyper formateur. Et ça donne la chose suivante, pour finir. Une jeune femme qui arrive ici, alors je suis désolée, on n'est plus dans les mineurs, mais moi je suis bien pour les hors-sujets. On est pour une jeune femme qui est albanaise, 23 ans, qui arrive en France en 2016. Cette jeune femme était en licence d'histoire dans son pays. Elle est draguée par un homme qui a une belle voiture, qui a de l'argent, des beaux vêtements. Elle est d'une famille pauvre. Il lui dit, tu sais, mon frère est en Italie, je pourrais t'offrir une meilleure université italienne. Bon, elle le suit, elle est naïve, c'est son premier amour, je ne vous fais pas de dessin. Elle le suit, elle arrive immédiatement dans le sordide, dans la banlieue de Milan, en étant asservie, on n'en dira pas plus, mais on le comprendra, sur 15 jours pour qu'elle accepte d'être prostituée. Elle va être obligée de se prostituer pendant 3 ans, 3 mois et demi. Elle arrivera à se sauver, passons. Elle arrive en France. Elle arrive en France, et comme les Albanais, ce n'est pas les préférés de M. Collomb quand il était ministre de l'Intérieur, ça passe en procédure accélérée très rapidement. Ça passe tellement accéléré qu'elle est convoquée dans les 6 semaines en entretien OFPRA. Cette jeune femme de 23 ans, qui a vécu les pires choses. La première chose, quand elle est arrivée en France ici, elle est tombée, heureusement, sur une équipe de médecins de la PASSE à Saint-Joseph, qui a été, je dis exceptionnelle, et pardon, parce que pour vous c'est sans doute normal, mais voilà, qui a été soignée pour des soins gynécologiques gravissimes que vous imaginez. Puis ensuite, elle était à la rue, parce que célibataire, parce qu'albanaise, parce qu'elle passe après tout le monde, à la rue à Lyon. Elle est convoquée à l'OFPRA à Paris. Elle tombe sur un officier de protection, ça s'appelle comme ça, homme. Autant vous dire qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien pu dire. Rien. Autant vous dire qu'on a dit que son récit n'était pas circonstancié, qu'elle n'avait rien à dire dehors. C'est à ce moment-là qu'on la rencontre avec des équipes de médecins, etc., toute une petite équipe, et qu'on fait un appel, qu'on rédige un appel à la Cour d'asile. Et là, joyeuseté de la France, grand pays des droits de l'homme, c'est sûr, mais pas surtout, la Cour d'asile rejette 30% des dossiers de demandeurs d'asile par ordonnance. Actuellement, vous pouvez aller vérifier le rapport d'activité de la CNDA pour traiter leur stock et leur flux, là, comme parlait quelqu'un ce matin. Ils rejettent à 30%. C'est même monté en 2018, 31%. Rapport d'activité, Internet, vous pouvez tout vérifier. Ça veut dire quoi? Je fais appel, je donne un certificat médical, je précise des choses, je m'attends à être entendu. Eh bien non, on reçoit une lettre commandée en disant « Attendu que l'appel n'est pas motivé, c'est pas suffisant, c'est pas sérieux, rejet. » Elle retombe à la rue. Nous passons 2 ans et demi ensemble avec Passerelle Buissonnière, les médecins, l'encadrement, et cette femme, petit à petit, se livre ou se délivre. Petit à petit, on va dire, d'accord. Nous sommes passés mardi à l'OFPRA sur une demande de réexamen. Pour la demande de réexamen, on avait indiqué, voilà les certificats médicaux des médecins, voilà le protocole d'Istanbul, nous vous demandons de la convoquer parce qu'elle n'a jamais eu droit à être entendue correctement. Le protocole d'Istanbul, il nous dit, petit 1, la personne qui doit interroger doit être du même sexe si la personne le réclame. On le réclame. L'interprète, petit 2, pareil, on réclame. Petit 3, avocat présent. C'est pas que l'avocat soit génial, mais quand on connaît l'histoire, c'est mieux pour la personne. Résultat de l'opération. Pour une personne qui est là entrée depuis 3 ans, qui franchement a plus que souffert en France, j'entendais pertinemment ce qu'il se disait ce matin sur les souffrances ici, mais aussi tout ce qu'elle a vécu avant, dont elle n'avait jamais pu parler. Elle a pu parler pendant 4h30 devant l'officier de protection. On a fait l'ouverture à 14h, on a fait la fermeture à 18h30. Et je pense très honnêtement qu'elle aura une protection. Grâce notamment à tout le travail des médecins, des psys, de toute l'équipe formidable qui est à Lyon, mais aussi grâce au fait que même l'OFPRA a commencé à intégrer, pour certaines personnes, le protocole d'Istanbul pour protéger. Alors si je le dis, si je le fais en point 3, parce que je sais toute la valeur du travail fait par le COMED, c'est pour vous dire que le protocole d'Istanbul est une opportunité pour se battre contre un certain nombre d'injustices. C'est qu'une opportunité. Pour travailler en pluridisciplinaire, se faire confiance, travailler en pluridisciplinaire, convaincre les juges, parce que c'est eux qu'il faut convaincre, et gagner à ce qu'on réduise un tout petit peu l'injustice, malgré l'article un peu déprimant de M. Fassin sur la CNDA. Mais parfois, j'avoue que j'ai le même sentiment en sortant d'audience de la CNDA, suivant la composition des juges. Voilà en état nos observations pour vous dire, il y a des, me semble-t-il, et je pense qu'on est d'accord, des outils internationaux, il en existe, ils ne sont pas nécessairement suffisamment utilisés et on ne sait pas suffisamment travailler tous ensemble. Merci à vous.
Yeah.